Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, l'Église nous donne de contempler les Béatitudes, peut-être le texte le plus central des Évangiles, le plus beau, à n'en pas douter, même si vous connaissez plus, je pense qu'on est plus familier avec Saint Matthieu, les 8 Béatitudes de Saint Matthieu. Ici, on est chez Saint Luc et il y a 4 Béatitudes et 4 Malédictions. Et alors, on est moins familier avec ce texte, mais c'est la même chose. Et c'est quelque chose de profondément central dans le discours du Seigneur, puisque il le fait solennellement, très solennellement, vous l'avez vu, c'est le discours sur la montagne. Il descend dans la plaine, il est escorté de ses 12 disciples, c'est-à-dire les apôtres. Il rencontre une grande foule de disciples, c'est-à-dire vous, et les apôtres, c'est aujourd'hui les évêques, les successeurs des apôtres, et les prêtres sont leurs collaborateurs. Les disciples, c'est vous. Et il y a une foule nombreuse à qui on annonce cet évangile. Voyez, on ne peut pas faire plus solennel, même la solennité de nos liturgies ne rend pas l'extrême gravité solennelle de cette annonce. Pourquoi le Seigneur met cette solennité? C'est parce qu'évidemment c'est le centre, c'est la loi nouvelle qu'il va révéler, mais de manière très déroutante. C'est pour ça que je disais qu'il est difficile de la comprendre, car si la loi ancienne était assez fournie et pas toujours facile à suivre, elle était très claire. Voilà, c'était des règles de séparation du pur et de l'impur. Ici, le Seigneur va annoncer un esprit nouveau qui ne paraît pas du tout être une règle de vie. Alors voyons ce qu'elle peut nous dire. D'abord, il y a les bénédictions. Elles sont immédiatement en rapport avec les 4 malédictions. Des bénédictions, c'est un appel de bonté. C'est une promesse de bien. Bénir, c'est appeler le bien, c'est le rendre présent. Vous le savez, vous avez le pouvoir, par votre langue, de bénir toujours et encore. Les prêtres ont reçu un pouvoir sacramentel de bénédiction pour à peu près tout. Les diacres aussi, pour des questions particulières. Et puis, on l'oublie parfois, les parents, l'Église leur députe un pouvoir tout particulier pour bénir leurs enfants. C'est pas marqué, mais il me semble que ça doit marcher avec les grands-parents aussi. Et donc, n'oubliez pas d'user de ce pouvoir de bénédiction, c'est-à-dire appeler le bien, parler, dites le bien autour de vous, ça vous pouvez le faire à tous égards, mais aussi pour ceux qui ont ce pouvoir, eh bien qu'ils utilisent ce pouvoir de bénédiction. Cette bénédiction, c'est donc déjà une promesse, c'est un appel du bien, c'est déjà le début de la vie éternelle. Alors voilà pourquoi le Seigneur va mettre en rapport avec une attitude fondamentale. Mais, ô combien déroutant, il semble à première vue flatter le fait d'être pauvre, d'être affamé, de pleurer et d'être haï. Très franchement, ce n'est pas très reluisant et ni très aguichant que de dire que c'est ça qui est bon. Le Seigneur, en prononçant ses bénédictions, n'appelle pas sur nous que nous devenions misérables, que nous soyons affamés, que nous pleurions ou que nous soyons haïs. C'est une constatation. En ce monde, alors que vous proclamez l'Évangile, vous avez besoin de vous rendre pauvre. Pauvre, c'est-à-dire détaché de tout. Ce n'est pas facile, hein ? Pauvre, ce n'est pas misérable dans la rue en train de mourir. C'est pas ça, pauvre, hein ? Car les richesses sont nombreuses. Évidemment, on peut penser à l'argent. C'est une richesse comme une autre. Mais il y en a beaucoup d'autres. Les études que vous avez faites sont une richesse. Je demandais à des enfants tout à l'heure, en célébrant la messe, et les enfants, immédiatement, je leur ai demandé quelles sont les richesses. La famille. Eh oui, votre famille est une richesse. Vos biens sont une richesse. Votre pensée est une richesse. Alors il n'est pas question de s'en séparer. Il n'est pas question de ne pas l'user. La question, c'est que si c'est ça, là où vous êtes vraiment, votre être, où vous vous tenez avec Dieu, eh bien vous vous trompez, car alors vous auriez déjà reçu ce que vous cherchiez, ce que vous possédez. Non, ce que nous possédons, ce que nous avons, nous voulons l'user en vue de la vie éternelle, nous avons besoin de le posséder, et il ne serait pas raisonnable, et même si je le prêchais, il ne faudrait surtout pas le faire, pour des parents, d'aller coucher sous les ponts, vendre vos voitures, vos appartements et vivre dehors sous prétexte de pauvreté. Non, Il vous appartient néanmoins de vous détacher intérieurement de toute chose pour pouvoir l'user, pour pouvoir le reprendre à bon escient en vue de la vie éternelle. Pour cela, l'attitude spirituelle qui correspond, pour la trouver, voyons quelle est la malédiction. Malheur à vous les riches, car vous avez déjà votre consolation. Eh bien, il faut trouver votre consolation ailleurs. Cette consolation, c'est le Seigneur. Elle doit être purement spirituelle. Et l'attitude qui y correspond, c'est évidemment l'humilité. L'humilité qui, le rappelle le mot lui-même, nous rappelle que nous ne sommes faits que de terre, que nous sommes forcément humbles, qu'aussi puissants ou riches que nous soyons, de toute façon, nous ne sommes pas grand-chose. Le carême qui vient nous le rappellera, nous sommes poussière. Poussière, humus, c'est un peu la même chose. Il nous faut nous rappeler que, quelque puissants que nous soyons, nous n'avons pas grand-chose à nous en propre. La deuxième bénédiction, c'est sur la faim. Sur la faim, car si vous avez faim, vous pouvez désirer. Et si vous désirez, vous n'êtes pas repu, c'est ce que dit également la malédiction, évitez d'être repu. Bien sûr, ici, ce n'est pas l'argent auquel on pense, c'est la table, c'est ce qu'on peut manger et boire, mais cela est valable de tous les biens. Si vous avez déjà tout, si intellectuellement vous pensez être arrivé au bout de tout, si votre intelligence vous met au-dessus de tout et de tout le monde, il y a des chances pour que vous soyez déjà repu. C'est-à-dire que vous n'ayez plus rien à attendre, plus rien à découvrir, et en clair, qu'il vous manque l'attitude spirituelle fondamentale, le désir. Il est de la nature de l'homme de désirer ce qu'il ne possède pas encore, et le bien le plus essentiel que nous voulons posséder, c'est Dieu. Alors il nous faut désirer Dieu, espérer le ciel, jeter les yeux par-dessus ce monde pour espérer vivre de Dieu, y compris dans ce monde. Troisième bénédiction et troisième malédiction, malheur à vous si vous... bienheureux êtes-vous si vous pleurez, vous rirez, et malheur à vous si vous riez, car vous serez dans le deuil. Ce n'est pas qu'il nous faut nous forcer à pleurer ou faire une triste mine, c'est que nous ne pouvons pas rire de ce monde et de tout. Si nous gardons les yeux ouverts, la gravité de la vie, la difficulté de vivre, la maladie et la mort, la tristesse parfois de l'homme, nous enjoint de ne pas nous moquer, de ne pas rire inconsidérément, car la joie que nous voulons, c'est celle qui apporte la paix, c'est-à-dire l'ordre divin. L'ordre, la tranquillité de l'ordre, dit saint Augustin, qui vous apportera la paix véritable, celle-là vous donnera une joie intérieure qui n'est pas la joie de ce monde, qui n'est pas la joie de la profusion ou de l'excitation, mais qui est une joie bien plus véritable. Voici les trois attitudes fondamentales, me semble-t-il, que l'on peut dégager de ces béatitudes et malédictions: l'humilité, le désir de Dieu et du monde, et la joie intérieure. Si nous possédons ces trois qualités, nous serons vraiment libres, c'est-à-dire détachés des biens de ce monde, désireux de recevoir les autres et profondément en paix. Alors il est possible que vous tombiez sous la quatrième et dernière bénédiction, malédiction. Malheur à vous si on dit du bien de vous, et bienheureux à vous si on dit du mal de vous, car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes. Pour vous détendre de ce sujet si grave, je vous raconte une anecdote du bienheureux curé d'Ars, à qui prêchait, paraît-il, remarquablement, et puisqu'on venait de partout pour l'entendre. Et un jour, une dame arrête le curé en lui disant: « Monsieur le curé, vos homélies sont extraordinaires, magnifiques, spirituelles, bien construites, élèves. » Il dit: « Oui, je le sais, le diable me l'avait déjà dit. » Alors, pas obligé d'être comme le tasson, avant d'être aussi bon que le curé d'Ars, il y a toujours une petite marge, mais pour vous dire en riant qu'il est un peu normal que nous soyons plutôt en contradiction dans ce monde. Ce monde ne supporte pas qu'on lui dise la vérité, ce monde ne supporte pas qu'on lui dise qu'il n'est pas fini en lui-même, ce monde ne supporte pas qu'on lui annonce une joie autre que la joie de jouir de lui-même. Alors, si nous le faisons, et c'est notre mission, il ne faut pas nous étonner, et nous ne le recherchons nullement, mais il ne faut pas nous étonner que nous butions et que le monde puisse nous prendre en haine, comme le dit saint Jean. Ne vous inquiétez pas de cela, il vous faut faire le bien et laisser dire, annoncer le bien et laisser crier, qu'importe, c'est notre conscience qui doit nous juger, elle doit souvent nous reprendre nous-mêmes, mais elle seule. Le monde ne connaît pas l'humilité ni le désir de Dieu, ni la véritable joie qui est spirituelle, alors il faut lui annoncer, il faut le prendre en pitié, il faut l'aimer vraiment, et qu'importe ce qu'on peut nous dire. La contradiction véritable, malgré des fulgurances qu'a pu connaître l'Église et on peut parfois les fantasmer, la véritable richesse de l'Église, c'est d'annoncer le Christ, c'est d'être le Christ lui-même, c'est de rejeter le péché au-dedans de moi, c'est d'annoncer la vérité dans le monde, qu'importe qu'il advienne. Voici notre méditation, elle est moins joyeuse que d'habitude, j'en suis dit, ou plus grave, je ne pense pas qu'elle soit triste, mais plus grave que d'habitude. C'est le ton de la liturgie de cette semaine, c'est pour ça que nous sommes chrétiens, nous entrons dans une prière qui n'est pas forcément la nôtre. Quand on dit la prière des heures, du bréviaire, on s'en rend compte souvent. Je suis souvent étonné, parfois je suis joyeux et l'Église me demande de méditer le Miserere, le psaume 50. Parfois je suis triste et le psaume, c'est un psaume de joie qui vient dans mon bréviaire. Parfois je suis en colère et c'est un psaume d'action de grâce. Bref, entrez, quel que soit votre état d'esprit ce soir et pour cette semaine, entrez dans cette méditation, désirez ces bénédictions, pleurez avec les malédictions, entrez dans le plan de Dieu qui va nourrir votre âme. Ainsi soit-il.